Samedi Gourmet, une émission de Roger Huet.
Bonjour mesdames et messieurs, je reçois à Samedi Gourmet aujourd'hui le spécialiste du vin d'une région du monde que nous connaissons peu au Québec. Cette région, c'est Israël. Bonjour Gad Elbaz.
Bonjour Roger, merci de votre accueil.
On cultive le vin en Israël depuis la plus lointaine antiquité et il est très présent dans la Bible. On dit que lorsqu'Adam et Ève furent expulsés du paradis, ils prirent conscience de la pudeur et cachèrent leur sexe avec des feuilles de vigne. Racontez-nous l'évolution du vin jusqu'à nos jours dans cette région du monde.
On produit du vin en Israël depuis environ 5000 ans. Les fouilles archéologiques dans le pays ont permis de découvrir un nombre important d'anciens pressoirs taillés dans la pierre qui témoignent d'une production à grande échelle. En plus, des fragments d'amphores typiques de cette région ont été trouvés autour du bassin méditerranéen, ce qui nous indique que la qualité du vin à l'époque était très belle, assez belle pour être exportée. Cette production va continuer de façon ininterrompue jusqu'à la conquête arabo-musulmane aux alentours du 7e siècle de notre ère. Après 1200 ans, on se retrouve à la fin du 19e siècle. La région, à l'époque, est sous contrôle de l'Empire ottoman et grâce, entre autres, à l'aide technique et financière du baron Edmond de Rothschild, dont la famille est propriétaire de grands domaines vinicoles, y compris le château Lafitte, on fonde tout d'abord une première société coopérative et ensuite une autre. Et en l'espace de quelques décennies, on se retrouve avec 5 producteurs qui produisent essentiellement des quantités importantes de vin cachère destinées à servir les besoins des communautés juives locales et à l'étranger. On fait un autre saut dans le temps, on avance d'un siècle et on se retrouve donc à la fin des années 1970. Il y a eu entre-temps des événements majeurs dans la région, dont l'indépendance d'Israël en 1948. Mais l'industrie vinicole israélienne, elle, est restée un peu figée dans le temps. Un groupe de vignerons décide de se donner tous les moyens pour produire un vin de qualité d'abord et s'inquiéter par la suite de savoir si ça sera un vin cachère ou non.
Puisque vous abordez le sujet, qu'est-ce qu'un vin cachère ?
De façon générale, un vin cachère est un vin qui est préparé de manière à être conforme aux lois alimentaires religieuses que suivent les juifs pratiquants. À partir du moment où le raisin est ramené au chai, jusqu'à l'embouteillage du vin, on s'assure que rien ne soit ajouté au vin qui ne soit pas lui-même cachère et que, par exemple, l'équipement ayant servi à la production de vin non cachère soit rincé et préparé afin de préparer des cuvées cachères. Mais les grandes étapes de la production sont tout à fait identiques. Tous les cépages sont permis, la vinification se fait de la même manière, on peut élever en fût de chêne, etc. Il n'y a pas de contradiction, a priori, entre un vin cachère et un vin de qualité. Ces vignerons donc israéliens qui décident au début des années 80 de produire des vins axés d'abord sur la qualité fondent un nouveau domaine, la Golan Heights Winery, les vignobles des hauteurs du Golan, et appliquent ensuite toutes les connaissances et méthodes acquises pour produire le meilleur vin possible. En 1983, ils mettent donc sur le marché leur premier vin. C'est un Sauvignon blanc Yarden, millésime 1983. Et là, c'est la stupéfaction générale. C'est le premier vin israélien, un vin parfaitement sec, qui se démarque au niveau qualitatif de tout ce qui avait été produit pendant un siècle. On se rend compte presque du jour au lendemain du potentiel énorme du terroir israélien.
Et c'est à partir de ce moment-là que tout bascule.
Alors tout à fait, tout bascule à partir de ce moment-là. C'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution vinicole israélienne. Au cours des 30 dernières années, on est passé de 5 producteurs à plus de 300 aujourd'hui, de toute taille, produisant très souvent d'excellents vins. Le défi aujourd'hui, véritablement à relever, c'est celui de se défaire de l'image de vin cachère et d'aller vers l'image de vin de qualité provenant d'un pays en pleine émergence vinicole qu'est Israël.
Quelles sont les régions vinicoles aujourd'hui en Israël ?
Alors, il y a 5 grandes régions vinicoles en Israël. Tout d'abord, tout à fait au nord du pays, il y a la région vinicole de la Galilée. Cette région comprend les hauteurs du Golan et la Galilée elle-même, région escarpée avec des vignobles en altitude, sol volcanique pour le plateau du Golan, sol argilo-calcaire bien drainé, souvent rocailleux. Un peu plus au sud, nous retrouvons la Samarie, qui comprend une partie de la plaine côtière au bord de la Méditerranée, au sud de la ville de Haïfa, mais aussi la région du Mont Carmel, une chaîne de montagnes qui présente un très beau potentiel vinicole. Encore un peu plus au sud, toujours sur la plaine côtière, on tombe dans la région de Sanson. Alors cette région est peu intéressante sur la côte méditerranéenne à cause du climat chaud, mais par contre, elle offre un potentiel beaucoup plus prometteur, plus à l'est, alors que nous nous trouvons sur le flanc de la chaîne de montagnes qui traverse le pays du nord au sud. Quatrième région à l'est de la région de Sanson, nous sommes dans la région vinicole des monts de Judée. C'est la région montagneuse qui entoure la ville de Jérusalem et qui s'étend vers le sud. Cette région comprend une très belle variété de sols, un climat relativement frais à cause de l'altitude et de son emplacement loin de la Méditerranée. Et enfin, au sud du pays, nous avons la région vinicole du Négev. Alors, le Négev est en fait un désert qui couvre presque la moitié du pays. Mais dans sa partie nord, toujours en altitude, on a réussi à cultiver de la vigne dans des terres sablonneuses avec des résultats souvent fort étonnants.
Quels sont les cépages qu'on y cultive ?
Pour les rouges, on va retrouver le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Petit Verdot, la Syrah, le Cabernet Franc, entre autres. Et pour les blancs, le Chardonnay, le Sauvignon Blanc, du Viognier, du Gewürztraminer même et du Riesling. Pour beaucoup de cépages, au cours des dernières années, les vinificateurs ont fait leurs preuves, ont produit de très belles choses. Pour d'autres, on est encore au stade d'essai, mais là aussi, les résultats qu'on voit sont très très prometteurs.
D'où proviennent les meilleurs vins d'Israël ?
Deux régions se démarquent des autres par rapport à la qualité des vins qu'on y produit. Il y a tout d'abord la Galilée. Cette région a l'avantage double d'être en altitude et d'offrir aussi une belle variété de sols et de microclimats. L'autre région en pleine ascension ces dernières années, c'est les monts de Judée. Là encore, l'altitude et tout ce que cela produit au niveau du climat, de la fraîcheur, se révèle comme étant un élément très important dans la qualité des vins qu'on y produit. Je ne veux quand même pas laisser les trois autres régions en marge. On peut dire que dans les parties de ces régions qui sont soit aux abords des deux régions que j'ai mentionnées ou bien qui sont en altitude, on produit d'excellents vins. C'est lorsque vraiment nous tombons plus à l'ouest, dans les plaines côtières près de la côte méditerranéenne, avec le climat chaud et humide, que nous trouvons des conditions beaucoup moins favorables à la production de grands vins.
Vous avez une agence qui s'appelle Isravin et vous importez des vins d'Israël. Vous nous avez apporté aujourd'hui trois vins à déguster. Voulez-vous les énumérer ?
On a un blanc et deux rouges. Le premier vin, c'est le Chardonnay 2010 de la maison Ella Valley Vineyards. Le deuxième vin est le Méritage 2010 de la maison Tepperberg 1870. Et enfin, nous avons la Syrah de Yarden millésime 2009 de la Golan Heights Winery.
Est-ce qu'on les trouve à la Société des alcools du Québec ?
Alors, tous ces vins sont effectivement à la SAQ. Il s'agit de produits de spécialité.
Nous commençons la dégustation par quel vin ?
Alors, nous commençons avec le Chardonnay 2010 du producteur Ella Valley Vineyards, situé dans la région vinicole de Sanson. Il est fait à partir de raisins de Chardonnay à 100%, cueillis à l'aube et à la main. Une partie du moût est élevée en fût de chêne français, l'autre en cuve d'acier inoxydable. Et l'assemblage se fait juste avant l'embouteillage.
Quelle belle robe.
Couleur paille, pâle.
Paille, mais oui, pas si pâle. Il y a quand même de l'or là-dedans.
Tout à fait.
Les arômes.
Alors, au niveau des arômes, on retrouve tout de suite des notes très distinctes d'agrumes.
Ah oui, les agrumes, tout d'abord, oui.
Pamplemousse, un petit côté citronné. Belle fraîcheur, on a un vin qui est très expressif au nez. Le bois, comme vous le verrez, même en bouche, est très discret.
Oui, oui, c'est vrai, il est très discret. Et en bouche, un vin très minéral.
Beaucoup de fraîcheur, le contraire vraiment d'un chardonnay typique du Nouveau Monde.
Oh oui.
Le bois est présent, mais le bois est vraiment en arrière-plan. On a un très beau fruit, on le laisse s'exprimer, et le bois vient soutenir ça de façon très, très subtile.
Très agréable. Quel mets suggérez-vous pour accompagner ce vin ?
Alors, avec ce vin, j'irai, justement parce que c'est un vin assez minéral, assez ciselé, j'irai par exemple avec des pâtes à la sauce rosée. Il va bien couper la texture onctueuse de la sauce pour s'accorder parfaitement donc, avec ce plat.
Ça va être délicieux. Maintenant, votre deuxième vin.
Alors, le deuxième vin, il s'agit donc du Méritage 2010 du producteur Tepperberg 1870. Le domaine est également situé dans la région de Sanson. Il s'agit d'un assemblage bordelais dominé par du Cabernet Sauvignon et du Merlot, avec un peu de petit verre d'eau et de Cabernet Franc. Il est élevé 8 mois en fût de chêne français.
Belle robe rouge, des larmes dans le verre qui coulent, qui montrent son onctuosité, les arômes. Ah, il est très bon ce vin.
Alors effectivement, on a, comme vous l'avez dit, une robe très profonde. On a une macération à froid qui a été faite pour une extraction maximale de saveurs et de couleurs. Et sur le nez, il ne déçoit pas. On retrouve des arômes de cassis, de baies sauvages, de bois un peu épicé. On a une belle profondeur dans ce vin.
Une belle complexité de saveurs.
Tout à fait. Des tanins quand même assez présents, assez bien fondus. C'est un vin qui est légèrement corsé, qui va plaire aux gens qui aiment un vin qui a du caractère, qui a de la mâche, comme on aime souvent dire.
Oui, il a une certaine longueur aussi. Il est très agréable. Quel mets suggérez-vous avec ce vin ?
Alors avec ce vin, j'irai par exemple avec un ragoût de bœuf, fait avec un beau choix varié de légumes frais, de pommes de terre. Les tanins du vin, le caractère un peu corsé, la profondeur des saveurs se marieront très bien avec les saveurs riches et épicées de la viande et des légumes.
Ah, j'en suis certain. C'est un vin qui est très gourmand. Et le troisième vin ?
Alors, le troisième vin est la Syrah Yarden 2009 de la Golan Heights Winery. Le vin est fait à partir de raisins de Syrah à 100%, provenant de vignobles situés sur les hauteurs du Golan, à des altitudes variant entre 600 et 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le vin est élevé 18 mois en petit fût de chêne français.
La robe est foncée, d'un rouge carmine, magnifique, très profond.
Tout à fait. Là encore, on a une très belle extraction de couleurs et de saveurs.
Et les arômes de cerises noires, de chocolat, il y a des notes de cuir.
Il y a des notes de cuir, il y a des notes de tabac, il y a des notes un peu animales même.
Oui. Presque, je pourrais dire, de garrigue.
Tout à fait. Alors, une belle complexité d'arômes.
Très belle complexité. J'aime beaucoup ce vin. On va le goûter maintenant. Ça, c'est un vin délicieux.
C'est un vin délicieux.
Joyeux, élégant. Les tanins sont tellement bien fondus avec l'acidité, avec l'alcool. C'est un pur régal. Quel mets suggérez-vous pour accompagner ce vin ?
Alors très naturellement, l'agneau, d'après moi, est l'accord parfait pour ce vin. Un carré d'agneau cuit au four va s'accorder très bien avec cette Syrah. Aussi une épaule d'agneau, par exemple, rôtie aux pommes de terre et aux champignons. On peut même la rehausser d'épices orientales pour un peu rappeler le côté méditerranéen, moyen-oriental de ce beau produit.
Ah, vous me faites rêver. C'est exactement ça à quoi je pensais. C'était une joie de vous accueillir à Samedi Gourmet, Gad Elbaz. Nous avons placé vos liens sur le blog de notre émission.
Merci encore à vous de m'avoir accueilli, Roger. J'espère que vos auditeurs prendront autant de plaisir à découvrir ces vins que j'ai eu à vous les présenter.
Je les invite à le faire parce que vraiment, ce sont des vins délicieux, un petit peu différents de ce qu'on trouve généralement sur le marché, mais tellement qualitatifs. Thank you. Nous recevons maintenant à Samedi Gourmet une pâtissière d'exception. Bonjour Stéphanie Labelle.
Bonjour Roger.
Vous êtes propriétaire de la pâtisserie Rhubarbe sur le plateau et la clientèle apprécie autant vos pâtisseries que vos chocolats. Comment a commencé cette aventure?
Tout a commencé il y a 2 ans et demi maintenant. Il y avait un local qui était disponible, c'est tout bête. Du coup, je me suis dit, allez, hop, on y va. J'étais prête à m'embarquer dans une aventure avec une expérience de restaurant et une expérience de boutique. En fait, j'ai décidé de mélanger les deux.
Mais vous aviez étudié la pâtisserie.
Oui, tout à fait. J'ai fait la pâtisserie en boutique pour commencer. Puis ensuite, je suis allée en France travailler pendant 1 an. À mon retour à Montréal, je me suis dit, je vais explorer d'autres avenues. Et du coup, je suis allée en pâtisserie de restauration. Et celle-ci, la pâtisserie de restauration, est souvent plus légère. Il y a des techniques différentes qui sont utilisées. Alors, j'ai décidé d'ouvrir une boutique en mélangeant un peu ces deux techniques et ces deux saveurs.
Quelles sont vos créations qui marchent le mieux?
La tarte citron, c'est certainement un de nos meilleurs vendeurs.
Vous nous avez apporté plusieurs de vos créations pour déguster.
Oui.
Voulez-vous les présenter?
Alors, comme je disais, la tarte citron. Nous avons aussi un gâteau étagé qui, lui, est arrivé un peu plus tard dans l'évolution, si on veut, de la pâtisserie. En fait, c'est un gâteau qu'on change au travers des saisons. C'est un gâteau à multiples étages. Donc, pourquoi on l'appelle étagé? Donc, aujourd'hui, les saveurs sont autour de la pistache, de l'ananas et du citron. Pour l'instant, c'est ça. En fait, on est un peu limité dans les fruits en ce moment au Québec. Donc, on est allé vers l'ananas et la pistache. Donc, un gâteau très frais, celui-ci encore une fois, avec la gelée d'ananas. Nous avons une mousse ananas et citron superposée de biscuits pistache.
Nous allons le goûter. D'abord, il est très beau. La vérité, c'est qu'il est très beau, très tentant.
Le montage du gâteau lui-même fait le décor. Puis sur le dessus, on va venir rajouter un petit peu d'ananas et de pistache. Donc, très simple, encore une fois, dans le décor, puis pour garder, en fait, la vraie nature du gâteau et avoir peut-être un peu moins de froufrou.
Délicieux. Le deuxième, nous allons goûter.
Oui.
C'est la tarte au citron.
Oui. C'est une crème citron sur la pâte, un sablé breton, qui est un légèrement salé. Puis ensuite, vous avez un rectangle de crème citron. Et ensuite, il y a des pics de meringue italienne. Ensuite, avec les segments de citron et les zestes de citron vert, en fait, pour amener un peu de couleur aussi. Donc, des zestes finement râpés.
C'est une perfection. Je comprends très bien que vos clients sont très portés sur ce gâteau.
Donc, en fait, il y a le facteur aussi de la fraîcheur à la pâtisserie. C'était très important pour nous d'avoir des gâteaux frais du jour tout le temps. Et du coup, voilà, donc je pense que ça met encore plus en valeur un produit. Puis je pense que c'est important aussi. Et puis, bon, c'est sûr aussi l'équilibre avec l'acidité. Il ne faut pas avoir peur aussi de mettre un peu d'acidité, d'avoir des gâteaux un peu moins sucrés.
Absolument. C'est pas excessivement sucré. Ils sont à point. Et puis, celui-ci.
Le troisième, vous avez alors un gâteau fromage. Il est un peu différent, là encore, dans la forme. Nous avons une base carrée de gâteau classique, si on veut, gâteau fromage cuit, sur une pâte sablée, beurrée, qu'on fait nous-mêmes aussi. Par-dessus ce carré de gâteau fromage, nous avons une mousse allégée au fromage à la crème, donc en cercle cette fois-ci. Et sur le dessus, nous, on change aussi les fruits, tout dépendant de la saison. En ce moment, on a des beaux pamplemousses de la Floride, de nos voisins, puis avec une gelée fruit de la passion.
Une merveille.
Le quatrième pour aujourd'hui, nous avons amené une religieuse à l'érable. Contrairement à la religieuse traditionnelle, nous la décorons avec de la chantilly au lieu du fondant plus sucré, tandis que la chantilly, elle va être un peu plus légère et elle va amener une certaine fraîcheur aussi. Et à l'intérieur, nous avons une crème mascarpone érable avec une pâte à choux sur laquelle on met un petit croustillant de pâte sucrée. Donc, on a quand même un petit croustillant aussi. Puis c'est souvent la pâte à choux, ça va être très mou, ce qui peut être intéressant aussi. Par contre, là, on a un petit croustillant, donc ça amène une petite texture intéressante.
Si délicieux, si léger.
Ah, mais super. Alors, le dernier gâteau, celui-ci, est fait avec le nouveau chocolat de Valrhona, alors qui s'appelle le Dulce.
Le chocolat blond.
Exactement, le chocolat blond, qui n'est ni blanc, ni chocolat au lait. Donc, du coup, c'est du chocolat blanc caramélisé. C'est un chocolat vraiment intéressant. Moi, je le vois plus comme étant une friandise plutôt qu'un grand cru, par exemple, un chocolat plus recherché. Mais c'est quand même un chocolat travaillé, super intéressant. Il est onctueux en bouche. Il est vraiment super. Il est biscuité un peu à la fois. Il est vraiment gourmand. Et en fait, on l'a utilisé avec une ganache. On a fait une ganache, en fait, avec ce chocolat et au café. Superposé d'une compotée de bananes, fruit de la passion, avec une pâte sablée, encore une fois, pour faire un peu comme une tarte. Et ensuite, sur le dessus, nous avons une chantilly au chocolat dulcé. Donc, qui vient, encore une fois, alléger le tout.
Est-ce que c'est facile à travailler, le dulcé?
Alors, je vous avoue qu'en texture, pour ce qui est les chantilly et les crèmes, c'est une texture vraiment merveilleuse. Il est vraiment facile à travailler. Pour ce qui est du tempérage, c'est un peu moins conseillé. Puis, en faisant des tests et tout ça, je me suis rendu compte que oui, il réagit moins facilement si on veut qu'au chocolat noir, par exemple, pour faire du tempérage. Par contre, il est tout à fait utilisable aussi. Il est juste un peu plus capricieux, si on veut.
Est-ce que c'est Valrhona votre chocolat préféré?
Alors, je vous avoue que oui. En fait, j'ai travaillé beaucoup avec le Valrhona chez les chocolats de Chloé. Et puis ensuite, en France, c'est tout ce qu'on utilisait, c'était le chocolat Valrhona. Puis ensuite, dans les restaurants où je travaillais, j'ai eu la chance aussi de travailler avec ce chocolat-là. Je suis vraiment partie prise, je suis vraiment vendue chocolat Valrhona parce que c'est un chocolat qui s'utilise tellement bien, il y a une belle fluidité et les goûts sont tellement recherchés, c'est vraiment des beaux produits.
Tous vos gâteaux sont délicieux.
Merci.
Voulez-vous nous donner votre adresse, numéro de téléphone et le site web pour vos auditeurs?
Oui, certainement. Alors, c'est la pâtisserie Rhubarbe au 5091 de Lanaudière. C'est juste au sud de Laurier. C'est tout près de l'avenue, c'est entre l'avenue Papineau et Saint-Denis. Et le numéro de téléphone, c'est le 514-903-3395. Et vous pouvez aussi nous visiter sur notre site web au www.pâtisserierubarbe.com.
Nous avons placé tous vos liens sur notre blog dont nous donnerons l'adresse à la fin de l'émission. Merci d'être passé à Samedi Gourmet, Stéphanie Labelle.
C'est moi qui vous remercie.
Merci auditeurs et auditrices d'avoir été avec nous. Vous trouverez les liens de nos invités sur notre blog dont l'adresse est www.vsgourmand.wordpress.com. Je vous attends samedi prochain à midi pour une autre joyeuse émission sur la gourmandise. Je suis votre animateur Roger Huet, à la technique était Guy Lafrance. Bonne semaine.